Lundi 2 septembre 2024, vous écoutez 102.3 FM. Auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue en ce bulletin de nouvelles dont l'accent est mis sur l'éducation. Je suis Arlette Josué en équipe avec ma collègue Valérie Montreuil. Voici les grands titres de cette édition.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les urgences débordent dans 6 régions du Québec. Perdre le poids grâce à la marche sans moindre médicament ni chirurgie, c'est possible. Un témoignage de 2 pères et amis. Les groupes d'affaires ont approuvé des politiques favorisant l'immigration et l'arrivée de travailleurs étrangers afin de régler la pénurie de main-d'œuvre. Mais des économistes rejettent le principe même d'une intervention gouvernementale dans ce domaine. Malgré les sondages qui donnent les libéraux loin derrière leurs rivaux conservateurs et la défaite dans Toronto-Saint-Paul, Justin Trudeau ne se dit pas prêt à démissionner. Insécurité alimentaire, mise en fonction des frigos verts dans la MRC de l'Assomption. Mesdames et messieurs, nous vous avons aussi préparé des actualités internationales, mais avant les détails, voici l'éditorial présenté par le directeur général de Radio Centre-Ville, M. Wanex Lalanne Zéphir.
Colonisé par différentes puissances européennes comme l'Espagne, Royaume-Uni, France, Nouvelle-France, le territoire américain s'est développé petit à petit. En 1776, après la guerre de l'indépendance qui a été victorieuse, les États-Unis allaient être nés avec le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, Rhode Island, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Plus tard, le territoire s'est élargi avec l'achat de la Louisiane et de l'Alaska. Depuis lors, ce pays n'arrête pas d'étonner le monde, allant de surprise en surprise. Développé très rapidement avec l'arrivée massive des immigrants européens au 19e siècle, les États-Unis est devenu, après la Première Guerre mondiale, la plus grande puissance mondiale. Considéré encore comme tel, les États-Unis présentent plusieurs facettes. Un pays d'immigration. En 2015, on dénombrait 48 millions d'immigrants aux États-Unis, soit 15% de sa population totale. Pays de restriction, ces 15% ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême de l'État. En d'autres termes, la présidence n'est pas pour ces 15%. Il faut être de la troisième ou de la deuxième génération. C'est ce qui a permis à M. Barack Obama d'être élu président en 2 fois. Un autre visage des États-Unis, c'est un pays raciste. Le racisme, qui est une institution, accordait aux Américains blancs des droits et des privilèges non accordés ou tout simplement refusés aux Amérindiens, aux Afro-Américains, aux Asio-Américains et aux Latino-Américains. Les Euro-Américains, en particulier les Anglo-Américains, sont privilégiés par la loi. États-Unis, pays où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes. Les femmes peuvent avoir les mêmes emplois que les hommes. Elles peuvent être élues sans aucune restriction. Donc, qu'est-ce qui aurait empêché à la candidate démocrate, Mme Harris, d'accéder à la présidence américaine? Elle est née le 20 octobre 1964 en Californie, aux États-Unis. Donc, elle n'est pas une immigrante de première génération. Elle a seulement 59 ans, donc pas trop âgée, contrairement à Joe Biden. Elle peut mener le pays à bon port. Les Américains ont déjà voté un noir au pouvoir, Barack Obama. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, mais une femme noire d'origine asiatique a-t-elle la même chance qu'un homme blanc? Il n'est écrit nulle part aux États-Unis, pour ne pas dire nulle part en Occident, qu'une femme noire ne peut pas accéder à la présidence d'un pays. Donc, Mme Harris est bien placée pour faire l'histoire. Elle va être, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, la première femme asiatique noire à être élue présidente aux États-Unis. C'est ce que souhaite d'ailleurs Radio Centre-Ville. Toutefois, ce souhait est conditionnel. Il faut que Mme Harris promette de tout faire pour que les Palestiniens puissent recommencer à vivre. Il faut que l'Occident, en particulier les États-Unis, arrête de se servir de l'Ukraine pour attaquer la Russie. Il faut que l'administration américaine invite la France à lever son genou sur le coût de certains pays de l'Afrique. Il faut que la politique indivisée pour régner soit abandonnée. Il faut que toutes les couches sociales soient traitées de façon équitable. En un mot, il faut que les droits de tous les humains soient respectés. Ces conditions traduisent l'importance de vrais changements dans le monde. Il ne suffit pas de choisir un candidat pour son genre ou pour sa couleur, mais pour ce qu'il peut apporter de concret de la société. Il nous faut des leaders pour qui les intérêts de la majorité priment sur ceux de la minorité. Des leaders pour qui le bien-être collectif a le dessus sur celui de l'individu. En ce sens, les États-Unis se trouvent face à l'histoire. Les électeurs vont devoir faire appel à leur raison. Que la meilleure gagne.
L'achalandage était considéré comme élevé et très élevé dans 11 régions du Québec dimanche après-midi et seulement 4 avaient un taux normal. Selon le site Index Santé qui observe et rapporte les taux d'occupation et temps d'attente dans les urgences du Québec, la moyenne du taux d'occupation en date du 1er septembre vers 17h était de 106%. La tendance est légèrement similaire aux données des 10 derniers jours qui oscillent entre 101 et 114%. Parmi les régions répertoriées, 5 ont un taux d'occupation élevé et 6 très élevé. Les Laurentides 150%, la Naudière 145%, Laval 133%, la Montérégie 132%, Montréal 113% et l'Outaouais 108% sont les régions les plus touchées. Au total, 27 hôpitaux du Québec comptaient un taux d'occupation de plus de 120%. C'est notamment le cas à l'hôpital général du Lakeshore à Montréal dont le taux d'occupation a atteint 184%, alors que la durée moyenne de séjour des personnes de la salle d'attente était de 11h39. La situation n'est pas plus enviable à l'hôpital Barry Memorial en Montérégie, 180%, à l'hôpital de Saint-Jérôme, 174%, ou encore à l'hôpital de Lanaudière et centre d'hébergement Parfilia Ferland, 167%. Perdre le poids grâce à la marche sans moindre médicament ni chirurgie, c'est possible. Un témoignage de deux pères et amis qui ont décidé de pousser leur complicité au point de reprendre leur santé en main et ont réussi à perdre ensemble 300 livres, environ 140 kg grâce à la marche. Les deux amis n'ont eu recours à aucune opération chirurgicale ni à aucun médicament. Leur initiative remonte à un an et demi. Pierre, le second père, a eu le déclic à cause d'une photo qu'il a marquée. Pour plus de détails, voici TV La Nouvelle.
On vous présente un témoignage inspirant. Ce sont deux pères qui ont repris leur santé en main et ce, sans l'intervention médicale, Marie-Julie. Donc, les hommes ont perdu beaucoup de poids grâce simplement à la marche.
Oui, quelle belle histoire d'amitié, de persévérance, de complicité également entre ces deux hommes-là qui sont pères d'enfants autistes. Ils ont décidé il y a de cela une année et demie de se prendre en main. Donc, en un an et demi seulement, ils ont réussi à perdre à eux deux là, 300 livres. Maintenant, ils l'ont fait à coup d'effort, de persévérance, sans avoir recours à des médicaments ou encore une opération. Ils sont très fiers de ce qu'ils ont accompli. Écoutez, ils peuvent maintenant courir des demi-marathons.
Dans mon cas, ça a été une photo. C'est une photo qui a été prise par un ami là. De ma géant, et puis lorsqu'il me l'a envoyé par la suite, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma santé, j'ai eu peur de mourir, et puis ça a été, comment dire, l'élément déclencheur pour commencer à faire de la recherche, voir comment s'y prendre, sans être obligé de passer nécessairement par la chirurgie bariatrique, par les médicaments, etc.
C'est un défi quotidien, mais c'est important d'aller chercher de l'aide. Dans mon cas, puis Pierre aussi l'avait fait, on est allé consulter une nutritionniste. Et puis, au début, c'était pénible, de sorte que je faisais deux coins de rue. Je revenais chez moi, j'avais mal partout, j'ai continué. Et puis, à un moment donné, ben tu vois que ça s'améliore et puis tu pousses un petit peu plus sur les distances.
En terminant, leur message est porteur, c'est-à-dire vise à motiver les autres parce qu'ils l'ont fait et ils ont commencé quelque part et ils ont bien été épaulés.
Merci Marie-Julie.
Le changement de cap du gouvernement fédéral sur l'immigration temporaire a lancé un vif débat sur les façons de régler les pénuries de main-d'œuvre. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi que le gouvernement fédéral resserrait les règles et durcissait les critères d'admissibilité afin de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires au pays. Il a incité les entreprises à engager et à former des travailleurs canadiens. La pandémie et le manque de main-d'œuvre qu'elle a provoqué avaient amené le gouvernement à se montrer plus souple sur l'entrée au pays de travailleurs étrangers temporaires. Les groupes d'affaires ont approuvé des politiques favorisant l'immigration et l'arrivée de travailleurs étrangers afin de régler la pénurie de main-d'œuvre. Mais les économistes rejettent le principe même d'une intervention gouvernementale dans ce domaine. Idéalement, les gouvernements ne devraient rien faire, mais il est difficile pour eux de ne rien faire quand les employeurs sont contrariés, lance Christopher Worswick, professeur d'économie à l'Université Carleton à Ottawa. Plusieurs économistes soutiennent qu'un resserrement du marché du travail est une bonne chose pour les travailleurs et pour l'économie. Selon eux, le manque de personnel contraint les entreprises à hausser les salaires et à investir davantage dans la technologie visant à augmenter la productivité. Quand les gouvernements et les groupes d'affaires parlent de pénurie, on ne sait pas trop de quoi ils parlent. Souhaitent-ils des salaires plus bas afin d'engager des emplois supplémentaires? Hey, ce n'est pas comme ça que l'économie fonctionne, dit Monsieur Worswick. Les données du ministère de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté indiquent que 183 320 permis de travail ont été accordés à des travailleurs étrangers en 2023, une hausse de 88% depuis 2019. Monsieur Worswick réclame même l'abolition du programme pour les travailleurs temporaires étrangers. Le gouvernement devrait favoriser davantage le volet des postes à haut salaire dans ses programmes d'immigration. L'économiste Mike Moffat, un des experts qui se sont adressés aux ministres fédéraux au début de la semaine, demande aussi l'abolition du volet pour les postes à bas salaire dans les secteurs non liés à l'agriculture. On doit prendre garde contre ces demandes car elles ne correspondent pas à la réalité de l'économie. Riposte Diana Palmerin-Velasco, directrice principale Avenir du Travail à la Chambre de commerce du Canada. Elle soutient que de nombreux postes à bas salaire doivent encore être comblés au pays, notamment dans les petites collectivités où le déclin démographique complique le recrutement d'employés. Madame Palmerin-Velasco repousse aussi l'idée que la présence de travailleurs étrangers temporaires nuit au salaire. Malgré les sondages qui donnent les libéraux loin derrière leurs rivaux conservateurs et la défaite dans Toronto-Saint-Paul, Justin Trudeau ne se dit pas prêt à démissionner. Le premier ministre du Canada reste confiant et les ministres de son cabinet gardent la confiance en lui. Le chef libéral et ses assistants ont répondu aux questions des journalistes lors de la retraite du cabinet la semaine dernière.
On est en train de faire un travail extrêmement important et j'ai hâte de continuer à présenter un choix positif aux Canadiens.
Alors, en d'autres mots, il n'a pas l'intention de partir de passage à Halifax pour la retraite annuelle de son cabinet. Justin Trudeau a dû faire le point.
Malgré les inquiétudes liées à ces mauvais sondages depuis plus d'un an, malgré cette défaite surprise dans cette circonscription de Toronto-Saint-Paul cet été, les ministres à qui on a parlé aujourd'hui se rangent tous derrière Justin Trudeau, du moins publiquement. Ils se sont passés le mot pour dire vouloir continuer de travailler sur les dossiers qui les attendent. On les écoute.
Le premier ministre a mon appui, puis moi, mon boulot présentement, c'est d'être la meilleure ministre des Affaires étrangères dans une situation qui est assez difficile, qu'on n'a jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, chaque jour, je continue à faire mon boulot.
Je pense que la meilleure façon de démontrer aux Canadiens, aux Canadiennes, que l'énergie est là, c'est d'arriver avec un message optimiste. Et vous savez, l'optimisme, c'est contagieux. Donc, on va continuer de démontrer l'écoute qu'on a eue, mais l'écoute aussi qui est suivie par des actions concrètes.
All of us here have tremendous confidence in the Prime Minister. We have confidence in him as the leader of our government, as the Prime Minister of Canada, and we have confidence in him as our party's leader, as the guy who is going to lead us into the next election.
Le plan stratégique du gouvernement du Québec en matière d'habitation s'appuie principalement sur des mesures déjà annoncées, en plus de manquer d'ambition selon plusieurs observateurs. Le journal progressiste Pivot rapporte que la majorité des mesures contenues dans la stratégie québécoise en habitation dévoilée la semaine dernière par le gouvernement Legault avaient déjà été annoncées. Qui plus est, les grandes orientations du plan pourraient aggraver le problème qu'il cherche à régler selon plusieurs observateurs. Le plan dévoilé par le ministère responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, vise à faire face à la crise du logement en s'appuyant sur 65 mesures, dont 42. 65% sont déjà en cours de réalisation. Parmi les 23 mesures présentées comme nouvelles par le plan, un examen détaillé permet de constater qu'environ les deux tiers d'entre elles avaient déjà été annoncées en bout et en partie, notamment dans les derniers budgets et mises à jour budgétaires. 8 des nouvelles mesures concernent l'allègement des contraintes administratives aux entrepreneurs privés, 5 la reconversion d'immeubles et 3 l'accompagnement des municipalités dans l'exécution de programmes ou de lois existantes, le logement étudiant, le financement des projets soutenus par la Société d'habitation du Québec et les projets d'études de la situation ont droit à 2 mesures chacun. Une autre se veut un encouragement à informer la population sur ses droits. Il n'y a vraiment pas grand-chose de neuf, on s'entend. La plupart de ce qui est contenu dans ce plan a déjà été annoncé 3, 4, voire 5 fois, remarque Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Pour Véronique Laflamme, porte-parole du Fonds d'action populaire en réaménagement urbain FRAPRU, le plan est d'autant plus décevant qu'il était entendu depuis des années, qu'il est basé sur une longue série de consultations réalisées depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Legault. C'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris, remarque-t-elle. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'imposition dès octobre d'une surtaxe de 100% sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine et de droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium chinois. Les droits de douane seront imposés à compter du 1er octobre aux véhicules électriques et dans certains cas hybrides, que ce soit des voitures, des camions, des autobus ou des camionnettes de livraison. Quant aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois, ils entreront en vigueur le 15 octobre. En conférence de presse à Halifax, où il a réuni son cabinet pour 3 jours la semaine dernière, M. Trudeau a affirmé que la Chine ne se conformait pas aux mêmes règles du jeu que le Canada et ses alliés. Pékin applique des normes moins rigoureuses en matière d'environnement et de travail, a soutenu le premier ministre. Cette concurrence déloyale compromet, selon lui, la sécurité d'importantes industries canadiennes et entraîne le déplacement de travailleurs des secteurs de l'automobile et de la métallurgie.
Les États-Unis l'avaient déjà fait, l'Union européenne également. Alors aujourd'hui, c'est officiellement annoncé, surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois, 25% sur l'aluminium et l'acier chinois. Ce qu'on parle du côté du gouvernement, c'est de concurrence déloyale, notamment en raison des normes qui font en sorte qu'on peut produire un produit moins cher, qu'on s'inquiète qu'il vienne inonder le marché canadien. On veut protéger les investissements qu'on a fait dans cette chaîne, cet écosystème de véhicules électriques qu'on tente de créer ici chez nous. Donc, en même temps, ça fait plaisir aux manufacturiers, mais il y en a qui disent que ça ne contribuera pas à faire baisser les prix des véhicules électriques au pays et donc à accélérer cette transition vers des véhicules électriques, Sophie.
Insécurité alimentaire, mise en fonction des frigos verts dans la municipalité de l'Assomption. Contexte économique difficile, dommages résidentiels causés par la météo. Les temps sont durs pour de nombreuses familles. Afin d'offrir du soutien aux citoyens dans le besoin, les membres de la table de solidarité pauvreté de la MRC de l'Assomption annoncent la mise en fonction d'une dizaine de frigos verts sur le territoire. Ouverts à tous et disposés dans des lieux publics, ces frigos libre-service visent à réduire le gaspillage alimentaire, à permettre l'accès gratuit à de la nourriture et à favoriser l'entraide entre les citoyens qui sont invités à y déposer les surplus des récoltes, plats cuisinés aliments propres à la consommation. Le coup d'envoi du projet fut donné dans le cadre d'un événement qui se tenait au chapiteau de l'île Les Belles le 27 août en présence du maire de Repentigny, Nicolas Dufour, du maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau et des partenaires du projet. Aucun citoyen ne devrait manquer de nourriture sur la table, a déclaré le maire de Repentigny et préfet suppléant de la MRC, l'Assomption. C'est pourquoi la ville est très heureuse de soutenir cette initiative qui apportera une aide supplémentaire aux familles dans le besoin. Nous emboîtons le pas comme plusieurs municipalités dans lesquelles plus de 125 frigos communautaires sont déjà mis en place. De plus, ce projet s'imbrique directement dans les aspirations du plan stratégique 2023-2027 de la ville. D'ici 2026, 3 autres frigos verts seront installés en sol répentinois. Avec plus de 125 frigos communautaires déjà en place dans plusieurs municipalités, le concept des frigos communautaires développé dans le cadre du projet Sauve la bouffe continue à faire des petits. Mesdames et messieurs, voici la page internationale de notre radio-journal qui vous sera présentée par ma collègue Valérie Montreuil.
Haïti. Au 3e jour de combat, la PNH avance. On a fait des avancées, on continue d'avancer, a déclaré le commissaire divisionnaire Michael Ange-Louis, porte-parole de la Police nationale d'Haïti, la PNH, en résumé des premières 72 heures de l'opération conjointe contre les gangs dans les quartiers de Bas-Delma, Bel-Air et Solino. Il a refusé de donner des détails, expliquant que l'opération était en cours, mais promis qu'un bilan sera communiqué au moment opportun. Enfin, il a précisé que l'opération se poursuivra jusqu'au démantèlement total des gangs de ces zones. En Ukraine, plus de 2 ans après le début de l'invasion russe, les petits drones kamikazes de fabrication artisanale de type FPV continuent de constituer l'arme la plus redoutable dans chaque camp. Soldats russes et ukrainiens en lancent plusieurs milliers par jour sur leurs adversaires. Cette arme a totalement changé l'aspect de la guerre et en constante évolution technologique. Voici le reportage de Radio-Canada dans les environs de Kiev.
Cela pourrait ressembler à une simple sortie en plein air, à s'amuser avec des jouets télécommandés. Mais les apparences sont trompeuses. Olena est en fait une militaire. En compagnie d'un groupe de soldats ukrainiens, elle suit une formation pour apprendre à piloter un drone FPV. Un engin au départ conçu pour la voltige, mais qui est devenu en Ukraine une formidable machine à tuer. Équipé d'une grenade anti-char, il a permis de détruire quantité de blindés.
Les drones FPV jouent un rôle très important car ils peuvent changer la situation tactique sur le front, dit-il. S'ils sont assez nombreux, il y aura beaucoup moins de blindés et de tanks car ils sont très vulnérables. Alors, les Ukrainiens les déploient en grand nombre. Ce centre de formation a déjà formé 1500 pilotes. Les débuts sont souvent difficiles. Comme les autres, Olena a déjà passé une trentaine d'heures sur un simulateur avant de prendre les commandes d'un vrai drone. Mais elle est motivée, déterminée. Pour moi, le plus important dans cette guerre est de protéger nos soldats le plus possible, dit-elle. Et ces armes alternatives nous permettent de combattre avec moins de pertes humaines. L'instructeur, Alex, est un civil. Il pilotait déjà des drones pour s'amuser depuis des années. Lorsque la guerre a commencé, il a compris que ses aptitudes pourraient être utiles. Un rôle qu'il endosse cependant à contre-cœur. C'était mon hobby et jamais je n'aurais pensé que ça deviendrait une arme, dit-il. En fait, jamais j'aurais imaginé que je deviendrais instructeur pour montrer à des gens comment tuer d'autres gens. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas le choix.
But I have to. Le drone FPV, c'est l'arme du pauvre. Il coûte quelques centaines de dollars à peine et il permet de détruire des blindés, des tanks qui valent des millions de dollars. Son défaut, en revanche, est sa faible portée qui limite son déploiement et met en danger ses opérateurs. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que les Russes aussi utilisent maintenant des drones FPV. Oleg l'avoue, les drones sont sa hantise. Ils représentent le plus grand danger pour un soldat dans une tranchée. Alors, cette compagnie ukrainienne a entrepris de fabriquer et de fournir aux soldats ses équipements de brouillage d'ondes. Ces brouilleurs créent un dôme de protection de 300 mètres, explique-t-il. Qu'ils soient montés sur des blindés, sur des chenillettes ou portatifs, ils coupent le signal des drones et protègent ainsi les soldats ukrainiens. 80% de nos soldats blessés ou tués le sont par des drones FPV russes, dit-il. Alors, ces équipements vont sauver des vies. La compagnie dit tourner à plein régime et produire plus de 5000 brouilleurs par mois. Après les avoir essayés, Olé a très hâte d'en être équipé. Avec ses antennes déployées, il l'avoue, il se sentirait davantage en sécurité. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, dans les environs de Kiev.
Guerre Israël-Hamas, alors que les corps de 6 otages étaient retrouvés dans la bande de Gaza, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le gouvernement israélien. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a affirmé qu'ils avaient été tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu'on arrive à eux. Les corps de 6 otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël ont été retrouvés dans la bande de Gaza, dont celui de l'Israël. Américain Hersh Goldberg-Polin a annoncé samedi 31 août au soir le président des États-Unis Joe Biden. Plus tôt dans la journée, samedi, dans un tunnel sous la ville de Rafah, les forces israéliennes ont récupéré 6 corps d'otages détenus par le Hamas, dont celui de Hersh Goldberg-Polin, a expliqué M. Biden dans un communiqué en se disant dévasté et indigné. De son côté, l'armée israélienne a confirmé dimanche soir avoir identifié les corps de 6 otages ramenés de Gaza en Israël, parmi lesquels 2 femmes et 4 hommes, dont le jeune israélo-américain. D'autres détails avec Africa News.
C'est sa famille qui l'a annoncé ce dimanche matin. Hersh Goldberg-Polin a été tué à Gaza. Enlevé le 7 octobre, l'adolescent israélo-américain de 23 ans faisait partie des otages du Hamas. Son corps, son vie et ceux de 5 autres otages ont été retrouvés par Tzal dans la bande de Gaza. Ils ont été enlevés vivants le matin du 7 octobre par l'organisation terroriste Hamas. Leurs corps ont été retrouvés pendant les combats à Rafah, dans un tunnel souterrain situé à environ 1 km du tunnel dans lequel nous avons sauvé Farhan Kadi. Selon les autorités israéliennes, au moins 108 otages étaient encore détenus à Gaza et qu'environ un tiers d'entre eux étaient morts. C'est dans ce contexte que des véhicules militaires israéliens ont été vus à Jenin tôt dimanche. Cette ville de Cisjordanie a été le théâtre de violents combats en début de semaine. Les autorités palestiniennes dénoncent une extension de la guerre entre le Hamas et Israël dans ce territoire.
Un an après le massacre qui a ensanglanté Goma, la ville est plongée dans un deuil silencieux. Le 30 août 2023, la garde républicaine a attaqué un temple de la secte mystico-religieuse Wazalendo, faisant plus de 50 morts selon les autorités congolaises et une centaine selon la société civile. Un an plus tard, la douleur est toujours vive et les plaies sont loin d'être cicatrisées. Aline Feda, une survivante du massacre, se souvient avec effroi de cette journée tragique. Ils sont venus, ces militaires étaient bien habillés, très élancés et bien armés. Avec leurs armes, ils ont commencé à tuer les gens et après cela, ils ont brûlé l'église. Il n'y a que Dieu qui nous avait sauvés. Les gens avaient souffert et c'est grâce à Dieu que certains se sont échappés, mais d'autres ont été arrêtés, raconte-t-elle, le visage marqué par la tristesse et la colère. Ce vendredi 30 août, les adeptes de la secte et les familles des victimes se sont réunis pour rendre hommage à leurs proches disparus. Vêtus de tenues traditionnelles Wazalendo et chantant des chants mélancoliques, ils étaient des centaines à être réunis au sein de leur nouveau temple. La douleur est palpable et la colère gronde encore. Quand quelqu'un pleure son frère qui a été lâchement abattu par celui qui est censé le protéger, son visage doit se montrer triste. C'est pour cela que vous voyez que les visages des gens ici ne manifestent pas la joie. C'est juste une tristesse parce que les plaies sont encore fraîches, explique un responsable de la communauté. Le 30 août 2023, les responsables de la secte Wazalendo avait appelé à une manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO et des ONG internationales au Nord Kivu. La répression brutale de la garde républicaine avait suscité une vague d'indignation internationale. Un procès a été ouvert par la justice congolaise qui a conduit à la condamnation à mort du colonel Mike Micombe, ancien commandant de la brigade de la garde républicaine, comme principal accusé.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous concluons ce Radio-Journal. L'équipe de nouvelles vous remercie encore une fois de votre fidélité. La coordination a été assurée par Ismaël Bonigaba et la réalisation par Jean-Claude Tranquille. À la présentation, c'était Arlette, Josué et Valérie Montreuil. Nous vous souhaitons une agréable journée.
Aux gens et amis du plateau central, la région du centre d'Haïti, haut et bas plateau. Les originaires des villes de Hinche, Tomasik, Tomod, Maïsad, Los Palisser, Calasus et Cavaral, Mirbalet, Sodo, Las Caobas, Belader et les villes avoisinantes. L'UDAC, l'Union des amis du centre, vous invite à la soirée des retrouvailles le samedi 7 septembre à partir de 20h à la Perle Retrouvée. Adresse 76 55 20e avenue Montréal. Admission $50 par personne. Venez familles et amis pour festoyer tous ensemble.
L'équipe de MK Solutions Immigration vous présente l'émission J'apprends tous les dimanches de 13h à 14h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour être connecté sur l'immigration, les finances et autres, écoutez J'apprends avec Marilyn Kernizan et ses collaborateurs.
Vous voulez manger? manger un bon mets créole, j'en mange la caille, Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tassot de cabri, tassot de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez-nous voir dès maintenant au 91 85 boulevard Saint-Michel près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours.